E-learning,
formation,
neurosciences,
micro-learning,
dyslexie,
apprentissage,
le mapping,
numérique,
pensée design,
apprentissage social,
co-création,
collaboration.
Mon invité du jour, c'est Razan Raka, donc il va nous parler aujourd'hui d'enfants 10, de familles d'enfants 10, et qui va nous expliquer sa méthode justement pour aider les uns et les autres à vivre avec ce trouble. Razan Raka, bonjour.
Bonjour Marco.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? On va se tutoyer, hein, puisqu'on se tutoie sur les réseaux sociaux, donc on va continuer ici. Oui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire d'où tu viens, quel est un peu ton parcours?
Avec plaisir, je suis orthopédagogue, enseignante de formation, puis j'ai continué à pousser mes études avec une maîtrise en orthopédagogie. Et je prépare ma thèse doctorale en accompagnement parental, spécifiquement des parents, des enfants qui ont des troubles d'apprentissage ou de comportement.
Ok, cette thèse, tu l'as fait où? En Suisse ou au Canada? Puisque...
Je suis en train de la continuer, de la faire au Canada, à l'UQAM.
Ok. Je pense que tu es d'origine libanaise, c'est ça?
Bien sûr, je suis libano-canadienne.
Oui.
D'origine libanaise, j'ai vécu et continué mes études dans mon pays d'accueil, le Canada, le Québec. Puis j'ai choisi la Suisse, qui est au centre du monde ancien et qui est un point
de rencontre des Européens
ou d'échange au centre de l'Europe. Pour moi, Genève était le point de rencontre du Canada et du Liban. Alors, je me suis retrouvée ici et j'ai fait le lien, le pont entre ces deux continents. Et d'ici vient le nom de mon entreprise, Passport.
Passport, exactement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Donc, ton entreprise s'appelle Passport. Et donc, qu'est-ce que c'est Passport? C'est une association non lucrative, si j'ai bien compris.
C'est une entreprise.
Oui.
C'est pas une association, c'est une entreprise
individuelle
que j'ai commencé au Canada en 2012. Et puis, on s'est installé ici en Suisse et on a ouvert notre siège ici, à Genève, à la vieille ville. Et pourquoi Passport? Parce que c'est vraiment le lien, l'outil qui aide les parents et les enfants à passer d'un port à l'autre, à passer de la frustration, du stress, du malaise à un autre port où ils peuvent atteindre et exprimer leur potentiel ultime comme apprenant et comme personne.
D'accord, donc toi tu les accompagnes pendant ce voyage d'un port à l'autre?
Bien sûr, j'accompagne les parents, les enfants en même temps et parfois ou la plupart du temps, on fait le lien entre le parent, l'enfant, et puis le parent et l'école pour fermer un peu ce triangle d'or qui a comme sommet l'enfant, l'enfant apprenant ou le jeune adulte.
Oui, c'est important que tout l'entourage soit en synchronisation et travaille ensemble plutôt que chacun dans son coin ou qu'il y ait deux pôles de ce triangle qui ne participent pas.
Exactement. Et c'est pour cela, Marco, qu'on travaille la méthode systémique, mais qui est incrustée dans la famille et à l'école. Alors, on tisse ces liens autour de l'élève en difficulté entre les deux acteurs les plus importants, les parents et l'enseignant ou la direction de l'école.
D'accord. Et puis, je vois que tu as différents types d'interventions, donc des formations, des conférences, etc. Et donc, comment ça fonctionne? Est-ce que tu viens en amont du diagnostic, avant qu'on fasse un diagnostic? Ou bien est-ce que toi, tu te positionnes plutôt après le diagnostic, quand les parents savent que, par exemple, leur enfant est dyslexique ou dyspraxique ou un TDAH? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais je pense que tu t'adresses à plusieurs troubles, pas seulement les troubles de type 10 comme la dyslexie, la dyspraxie, mais tu travailles aussi le TDAH et l'autisme, si j'ai bien compris.
Exactement. Je vais répondre à clarifier ce point-là. Je travaille avec les familles et les enfants TDAH, Asperger et ayant des troubles 10, de l'anxiété de performance, la phobie de la phobie scolaire. Alors on cible vraiment plusieurs problématiques qui tournent autour de l'enfant et du jeune adulte adolescent. Alors comment gérer vraiment sa charge mentale comme adolescent, toute cette anxiété de performance qu'on voit et qui augmente de nos jours. C'est en psychopédagogie, Marco. Alors, c'est entre la pédagogie et l'apprentissage et le bien-être et le relationnel. Alors, c'est notre approche comme orthopédagogue et mon approche comme orthopédagogue. Elle est vraiment multidisciplinaire et elle s'adresse à plusieurs acteurs, dont les enseignants ou les éducatrices, les parents, différents genres de parents et de familles, bien sûr, et les apprenants ou les étudiants du jeune âge à l'âge adulte. Pourquoi vraiment ce parapluie, ce spectre qui est vraiment large? Parce que j'ai dû travailler, j'ai dû tisser mon expertise sur plusieurs niveaux dans un même domaine. Alors, dans le domaine des difficultés d'apprentissage, des troubles 10 et des problèmes neurodéveloppementaux, dans ce même domaine, j'ai exercé mon métier pendant 20 ans sur une différente clientèle, différents niveaux d'âge et différentes cultures.
Oui, effectivement. Et en plus, ce type de trouble se recouvre fréquemment. C'est quand même assez fréquent qu'un Asperger, par exemple, éprouve une certaine angoisse ou bien éprouve des troubles du type apprentissage du langage, etc. Donc, et c'est pas toujours évident d'ailleurs de démêler lequel est le responsable de quoi dans ce type de troubles.
Marco, pour démêler, d'abord, on va parler de ce point-là et d'un outil que j'ai commencé depuis un bout de temps d'utiliser pour concrétiser le trouble des enfants ou des jeunes adultes. Alors d'abord, vous m'avez posé une question. Quand la formation et quand l'intervention, est-ce que je viens
après le diagnostic?
Après. Ouais. Moi, comme orthopédagogue et comme membre de l'Association des orthopédagogues au Canada, on n'est pas censé faire un diagnostic en psychiatrie ou en neuropsychologie. On peut faire la partie du diagnostic qui cible l'apprentissage de langue ou l'apprentissage des mathématiques ou la structure de la phrase. Alors, on se base sur plusieurs outils ou sur plusieurs trousses et tests qui sont spéciales au dépistage des troubles langagiers et on travaille sous ou avec, en collaboration avec le neuropsychologue.
D'accord. Qui est responsable du diagnostic final?
Bien sûr. Alors, c'est lui qui est d'habitude responsable du diagnostic du test de l'intelligence, de l'anxiété, des troubles anxieux, des troubles psychologiques. Mais nous, comme orthopédagogues cliniciennes, je travaille sur le diagnostic relié à la langue, à l'apprentissage. Et puis, on fait un rapport, bien sûr, commun. Par contre, on est la porte pour le dépistage.
Ah oui.
Mmh. D'habitude, je reçois beaucoup de demandes des parents et même des enseignants qui demandent une aide pour cibler le problème. Alors, on utilise plusieurs outils, plusieurs tests qui nous permettent de cibler le problème, de voir est-ce que c'est un TDAH, alors c'est les tests primaires. Est-ce que c'est un TDAH? Est-ce qu'il y a des caractéristiques du trouble de l'autisme? Est-ce que c'est une anxiété ou un trouble oppositionnel? Alors, on suit des tests et des examens primaires. Si on a des évidences, un grand nombre d'évidences collectées, alors on va référer aux spécialistes. Comme orthopédagogue, clinicienne et scolaire, je suis la porte vers la référence à un spécialiste. Je réfère les parents à une logopédiste ou orthophoniste s'il y a un trouble au niveau de la langue qui cible une intervention, à une psychoéducatrice, à un psychiatre pour faire un rapport général qui est bien détaillé. Ça, c'est mon premier rôle avant le rapport et le test. Puis, après les tests qui sont faits par orthophoniste ou neuropsychiatre ou pédopsychiatre, je prends le rapport et je tisse mon plan d'intervention individualisé qui est basé sur les problèmes ciblés, les défis ciblés et qui se base aussi sur les points forts de l'enfant.
Alors, oui, ça ne se base pas uniquement sur les lacunes, mais aussi sur les points forts sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer après pour faire avancer les choses.
Mon approche primaire, essentielle, est d'identifier les lacunes, d'identifier les défis de l'enfant, mais de se baser sur les points forts que je cible dans le diagnostic neurologique ou neuropsychologique de l'enfant. Alors, quels sont les points forts? Si on a une mémoire auditive qui est très avancée, on va utiliser cela pour contourner le trouble langagier. Si on a une mémoire visuelle, on va aller dans ce sens et vraiment utiliser ce point fort et le renforcer encore plus pour pouvoir contourner le défi.
D'accord.
C'est ma méthode que je travaille, c'est mon guideline que je suis depuis toujours. Et peu à peu, on va voir que l'apprenant, que l'étudiant et sa famille va avoir plus confiance en lui. Lui, il va avoir plus confiance en lui-même parce qu'on va amplifier les points forts et partir ou à travers ces points forts, il va pouvoir atténuer ses défis.
Ok. Et donc, tout ça, ça se fait de manière individuelle selon le plan que tu as mis en place. Mais donc, quel serait le... Par exemple, par rapport à un enfant qui arrive chez toi, donc tu as ce suivi individuel. Et puis, quels sont les liens que tu ferais avec l'école et avec les parents, par exemple, pour être sûr que ce plan soit mis en place partout ou en tout cas, qu'il n'y ait pas une action, par exemple, de l'école qui aille à l'encontre de ce que toi, tu mets en place avec l'enfant.
Merci pour cette question, Marco, qui est toujours posée par les familles qui me sollicitent. Je travaille sur 3 niveaux. Et dans mon plan individualisé, qui est basé sur le diagnostic et les recommandations du neuropsychologue ou neuropsychiatre, on va avoir 3 acteurs. Alors, il va avoir une partie que j'ai fait travailler avec l'enfant, une partie qui va être travaillée entre l'enfant et les parents. Alors, je vais former et informer la famille. Je vais les former sur le trouble de leur enfant, leur expliquer quel est ce trouble-là, leur dire des vraies informations, leur procurer des lectures.
Oui, parce que malheureusement, dans ce domaine-là, excuse-moi de t'interrompre, mais il y a énormément de désinformations ou d'informations très approximatives qui circulent.
Il y a beaucoup de fake news, d'informations qui est compliquée, qui terrorisent les parents. J'explique tout ça. Je procure des lectures basées sur des recherches scientifiques et je vulgarise le trouble d'apprentissage ou de comportement.
Oui, ça c'est important parce que je vois parfois en France, tu sais que je suis un des initiateurs du MOOC 10, j'ai mis en relation avec pas mal de parents justement pour voir ce qu'ils vivaient. Et un des gros problèmes qu'on rencontrait par exemple en France, c'est que quand l'administration renvoie des documents, pense aux maisons départementales de la personne handicapée, etc., même certains spécialistes, bah, il faut être spécialiste soi-même pour comprendre leur jargon et pour comprendre. Il y a des parents qui publient sur Facebook une copie de la lettre qu'ils ont reçue en disant « qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'y comprends rien, je suis complètement perdu ». Mais finalement, ils se retrouvent plus perdus après la rencontre avec le spécialiste qu'avant.
Exactement. C'est là où commence aussi mon rôle. En recevant ces rapports et ces diagnostics-là, la première séance est toujours dédiée à expliquer le rapport. On lit le rapport, on l'explique, on le traduit parce que c'est un jargon qui est très spécifique et le spécialiste n'a pas le temps d'habitude d'expliquer le rapport aux parents. Le spécialiste n'utilise pas toujours, je généralise pas, mais d'habitude, des logiciels qui visualisent le trouble. Par exemple, mon partenaire neuropsychologue au Canada utilisait des graphes qui vont montrer aux parents le vrai problème et son degré pour vraiment rassurer les parents, pour concrétiser ce monstre-là qui est la dysphasie ou qui est le TDAH, parce qu'une partie du problème reste dans la peur, dans l'anxiété, dans la phobie que les parents créent face aux troubles de leur enfant.
Oui, comme tu disais tout à l'heure, en plus on est dans une société de la performance et donc chacun a envie que son enfant réussisse et soit parmi les meilleurs. Et donc ces troubles viennent effectivement semer une angoisse terrible parfois dans les familles. Est-ce que mon enfant va réussir? Est-ce qu'il a une chance de s'en sortir à l'école, d'avoir un jour un job, etc.?
Alors, j'explique aux parents, d'abord je les informe à propos du trouble, et puis je leur explique comment travailler les devoirs avec leur enfant. Et comment motiver leur enfant? Il y a toute une partie travaillée avec les parents. Comment développer l'estime de soi chez leur enfant? Comment voir les points forts plutôt et les amplifier plutôt que les points faibles? Comment travailler le temps de devoir qui est un très grand défi et les routines avec leurs enfants ou leurs adolescents même? Cette partie-là, Marco, va être différente d'un trouble à l'autre. Par exemple, les troubles de comportement ou les troubles d'opposition ou le TDAH, on travaille beaucoup sur le relationnel entre le parent et l'enfant ou l'adolescent. Par contre, la partie trouble, quand il y a un trouble 10, on travaille plus sur les études à la maison.
Oui, c'est vrai que mon expérience me montre que les parents d'enfants 10 passent un temps considérable à effectuer ces devoirs. Et parfois, ce temps considérable n'est pas vraiment récompensé parce qu'ils reçoivent des commentaires négatifs de la part de certains enseignants qui ne comprennent pas que les enfants ne sont pas des paresseux, mais au contraire, parfois investissent un temps et une énergie énorme et s'épuisent à essayer d'obtenir des résultats, parfois parce que la méthode de l'enseignant n'est pas adaptée non plus au couple de l'enfant.
Malheureusement, Marco, on ne trouve pas beaucoup d'enseignants et d'écoles qui prennent le temps de comprendre l'enfant 10 ou l'enfant TDAH. C'est la troisième partie où j'interviens. J'assiste à la rencontre entre la famille, les parents et l'enseignant ou la direction. Alors, je suis là, j'explique le trouble ou le cas de l'apprenant et je donne des recommandations et des pistes d'aménagement en classe, d'aménagement technologique si l'école le permet et l'accepte. Alors, j'outille mon élève avec des outils de soft technology et de hard technology. Alors, c'est pas nécessaire que ça soit des laptops ou des tablettes. Non, ça peut être des trucs sensoriels, un tableau blanc, quelques aménagements qui sont adaptés à l'environnement de l'école que les parents peuvent se procurer aussi. Parce que dans ce domaine-là, il y a aussi les capacités financières des parents qui n'est pas toujours au top. Et il y a l'environnement de l'école, de la classe. Et chez les adolescents, on peut confronter une résistance où l'adolescent ne veut pas se distinguer des autres ados, même s'il a besoin de l'aménagement.
Oui, là, il y a vraiment besoin d'une explication pour tout le monde, aussi bien pour lui que pour son entourage, que s'il utilise un ordinateur ou un outil spécialisé, c'est pas parce qu'il est anormal, mais parce qu'il a un trouble et que ça peut arriver à tout le monde, etc.
Marco, c'est un point très, très, très difficile par rapport aux adolescents et par rapport aux garçons spécifiquement.
Et je pense que ça dure parce que dans le MOOC 10, par exemple, on a très peu de papas. Et les témoignages des mamans, c'est que le père a eu beaucoup plus de mal que la mère à l'accepter en se disant « mon enfant est normal ». Et puis, il faut vraiment il y a vraiment une phase d'acceptation chez les pères qui semble beaucoup plus difficile, plus douloureuse et plus longue que chez les mères. Donc, je pense que chez les garçons, il y a aussi cet esprit de compétition où si j'ai un trouble, je serai moins bon que le voisin, etc.
Je travaille beaucoup avec les papas et les jeunes garçons. Et les recherches, d'ailleurs, dans ce domaine-là, ciblent ce point très spécifique où on a des intervenants, des mamans, beaucoup plus que des papas. Et d'habitude, et les recherches mentionnent que le déni et la résistance à accepter le défi de l'enfant ou le trouble de leur enfant, neurodéveloppemental ou comme trouble d'apprentissage, est toujours de la part du père. Sur le terrain, je reçois beaucoup de mamans qui documentent les résultats de ces recherches et qui témoignent aussi des difficultés dans la relation du couple à cause du problème de l'enfant.
Oui, du couple et aussi de la fratrie. On oublie parfois que les parents surinvestissent parfois sur l'enfant qui a un trouble et puis les autres se sentent délaissés. Donc, ça peut aussi provoquer des crises dans la fratrie.
Marco, merci aussi pour ouvrir aussi cette porte qui n'est pas moins importante que les autres. J'ai été un peu éblouie, si je peux utiliser, ou choquée un jour, quand il y a une maman qui assistait à mes conférences ici à Genève et qui est accompagnée de ses deux enfants, deux adolescents. Et elle était juste premier rang et elle m'a dit « je viens ». C'est la deuxième fois que j'assiste à vos conférences. Je parlais du TDAH et cette fois, je viens avec la sœur et le frère pour qu'ils apprennent comment agir, comment intervenir et comment tisser une relation saine avec leur sœur qui avait un TDAH avancé. Alors, les frères et les sœurs sont l'acteur invisible. Dans mon triangle, dans mon modèle qui est documenté dans ma thèse, il y a dans le système familial et dans le fonctionnement familial, les frères et les sœurs ont un rôle qui est très peu mentionné, mais que les recherches récentes depuis quelques années commencent à identifier, à investiguer. C'est le rôle de la fratrie parce que les frères et les sœurs souffrent beaucoup, niveau de stress très élevé, niveau d'angoisse très élevé, leur image de soi, leur relation avec les parents est gravement affectée, mais en silence, parce que l'enfant, par exemple, TDAH ou autiste, c'est lui qui est sous le projecteur. Alors, on oublie tout le reste. C'est lui qui absorbe l'énergie des parents. D'habitude, qu'est-ce que je recommande? J'interviens, une partie de mon intervention peut être avec la fratrie et je crée un espace, je fais un très grand effort pour vraiment créer un espace et élargir l'espace des frères et des sœurs dans la famille, spécifiquement quand il y a un frère ou une sœur seulement. Alors, il y a un autre enfant. Alors, il est complètement écrasé, Marco. Et c'est très triste de le voir, de l'écouter, parce qu'il est isolé dans cette famille. Alors d'habitude, on travaille, on crée un espace de rencontre et on recrée la relation entre les parents et la fratrie.
Oui, en fait, c'est aussi l'avantage d'une méthode systémique, c'est qu'on tient compte de tous les acteurs du système et qu'à un moment donné, on ne peut pas se focaliser uniquement sur un enfant au détriment des autres.
On ne crée pas seulement la relation ou l'espace des frères et des sœurs, mais aussi on leur fait participer, c'est une approche participative, à aider ou on le fait participer dans le jeu et dans le défi de l'enfant en question. Alors, on le rend actif, on va activer la fratrie. Elle ne va plus être vraiment isolé et non, on va...
Oui, elle ne va pas seulement subir, elle va pouvoir agir aussi à un moment donné.
Agir, exactement. Alors, on va changer la polarisation du rôle de la fratrie dans la famille. Alors, il n'est plus spectateur, il est membre acteur.
Ok, et ça se traduit comment? Donc, qu'est-ce que tu proposes, par exemple, comme participation à un frère ou une sœur qui serait dans ce cas-là?
Je vais donner des exemples concrets. D'habitude, par exemple, on fait des jeux. Une de mes interventions, alors quand je mets le plan d'intervention pour une famille, c'est d'habitude à peu près 8 à 10 séances qui vont couvrir tout ce que j'ai dit. Parfois, on est chanceux d'avoir un problème, par exemple, le même problème chez les deux frères ou le frère et la sœur. Alors, on travaille en famille, vraiment, c'est un travail d'équipe. Parfois, je me déplace pour une séance ou deux séances à domicile.
Pour voir comment fonctionne la famille dans son milieu.
Exactement. Si, bien sûr, la famille, elle est en Suisse, parce que j'ai plusieurs familles qui sont au Canada, j'ai plusieurs familles en France et même au Liban, en Tunisie. Alors, je pratique par téléconférence, par Skype. On profite de la technologie de nos jours. Si c'est en Suisse ou même France voisine, je me déplace pour faire l'observation à domicile au sein de la famille. Et cela m'aide beaucoup à comprendre et à sentir l'environnement, la vibration et les relations entre les membres de la famille. Alors, vous m'avez demandé comment cela peut fonctionner. Je sens et j'observe. Alors, c'est intuitif et c'est l'observation. C'est la chercheuse qui vient en moi. J'observe le lien entre les deux frères, entre la fratrie. Alors, à partir de ce lien, je vois le point commun qui peut lier les deux. Alors, l'intérêt, ça peut être un intérêt, une activité, une certaine passion, une activité qu'ils font ensemble, qu'ils aiment faire. Et on utilise cette activité-là ou ce lien-là pour avancer. Comment on met des baby steps?
Et donc, en fait, tu pars de nouveau de ce qui est commun, des points forts, pour créer quelque chose de commun. Et tu disais que tu mettais en place des baby steps pour...
On crée des baby steps. Alors, on cherche les liens, on cherche la base de la relation, des intérêts. Je travaille selon la discipline positive dont je suis certifiée. Alors, j'utilise cet outil-là comme la discipline positive pour travailler la relation entre les frères et sœurs et entre les parents et l'enfant TDAH. C'est l'outil que j'ai développé ici en Suisse, qui est certifié par Nadine Godin, qui est en France et qui a été l'une des fondatrices de l'Association des disciplines positives en France. J'ai ajouté cet outil-là, qui est basé sur la psychologie adlérienne, la psychologie positive, à ma trousse d'outils. Et je l'utilise spécifiquement pour tisser les liens dans la famille avec la fratrie. Et pourquoi la discipline positive? La discipline positive, car beaucoup de recherches, plusieurs recherches dont on peut poster les liens, qui sont basées sur la psychologie positive et la communication encourageante, les modèles de communication bienveillante, encourageante et non violente, qui font partie, qui sont un pilier dans la discipline positive. Beaucoup de recherches documentent que ce modèle-là de communication et d'interaction sont les plus efficaces au sein de la famille avec les enfants oppositionnels et avec les enfants ayant un TDAH.
Cette première partie de l'entretien avec Razan Raka est terminée. La suite au prochain épisode, mardi prochain, à partir de 7h du matin. Bonne écoute.